Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles à l'Évangile de Luc au chapitre 7, nous allons rester sur ce passage un petit moment. Luc chapitre 7, versets 16 à 35. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant : Un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent : Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alors les envoyés de Jean furent partis. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent aux enfants, assis sur la place publique, et qui se parlent les uns aux autres en disant : Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites : Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : C'est un mangeur et un buveur. Ce sont un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Notre passage se situe après un miracle, mais pas n'importe quel miracle, puisqu'il s'agissait d'une résurrection. Jésus vient de ressusciter carrément un jeune homme qui est le fils d'une veuve. Et c'est ce miracle qui précède le texte que nous avons lu et qui explique les mois dans lesquels se trouve toute cette foule qui déclare « Un grand prophète est paru parmi nous. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu. » C'est donc ce miracle qui provoque tous ces témoins. Et Jean-Baptiste, lui, car il s'agit bien de Jean-Baptiste dont on parle, c'est pas, je vous rassure, ce n'est pas Jean 23, c'est bien Jean-Baptiste dont on parle ici, a été enfermé par le roi Hérode qui voulait le faire taire. Mais de sa prison, il a vent de tout ce qui se passe et envoie des messagers. Et après avoir donné réponse aux messagers, Jésus part dans ce long discours que nous venons de lire à propos de Jean-Baptiste. Je reviens sur les versets 24 à 27. Fin du verset 24. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Oui, non, ce n'est pas possible, parce qu'un homme vêtu d'habits précieux, ce n'est pas dans une prison qu'on va le trouver, c'est dans le palais d'un roi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Et oui, et pas n'importe quel prophète. Un prophète annoncé par d'autres prophètes comme le messager qui va préparer le chemin du Christ. Et comment est-ce que Jean va s'y prendre pour préparer le chemin du Christ? Tout simplement en criant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Voilà ce que criait Jean pour préparer le chemin du Christ. On dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et pourtant, c'est en prononçant de telles paroles que Jean a baptisé une multitude de gens venus l'écouter. Les gens se repentaient de leurs péchés, et rien de moins que cela. Mais nous nous tromperions en croyant que c'était beaucoup plus facile à l'époque de parler de péché et de repentance qu'à la nôtre. Si on examine un peu plus près dans l'évangile de Matthieu, il nous est décrit de manière très explicite que plusieurs pharisiens et sadducéens, ce dont parle Jésus un peu plus loin, les docteurs de la loi, les autorités religieuses de l'époque, sont venues vers Jean, elles aussi, mais avec des dispositions intérieures qui étaient de tout ordre, sauf la repentance sincère. Qu'est-ce qui les poussait? La curiosité, peut-être. Qui était donc ce Jean qui déplaçait les foules? Il y avait aussi des luttes internes entre pharisiens et sadducéens qui représentaient deux tendances souvent opposées. Et peut-être que dans leur esprit, il y avait le calcul de s'attirer les bonnes grâces de tout ce peuple en se montrant au milieu d'eux, en s'affichant auprès de celui qui attirait autant de personnes. Est-ce que c'était un calcul visant à infiltrer ce mouvement naissant? On peut tout imaginer, mais ce qu'on sait, ce qui nous est dit par ailleurs dans l'évangile, dans d'autres évangiles, c'est que Jean ne discerne en eux pas le moindre commencement de début de signe de repentance et il le dénonce publiquement. On lit cela dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Jean, donc, pratiquait le baptême de repentance. La repentance précède la grâce. Pour illustrer un peu, je vous propose d'imaginer qu'un beau matin, vous allez à la boîte aux lettres et vous trouvez une lettre qui vous vient du ministère de la Justice. Fébrilement, vous l'ouvrez et voici ce que vous lisez. « Monsieur ou Madame, nous vous informons que conformément à la loi qui lui autorise, le président de la République, M. François Hollande, vient de vous gracier dans l'affaire pour laquelle vous avez été reconnu coupable envers la justice française. Cette grâce est irrévocable et ne peut faire l'objet d'aucun appel de quelque juridiction que ce soit. En conséquence de quoi, plus aucune charge n'est retenue contre vous. » Vous allez vous dire, mais je ne me savais pas condamné. Et vous allez prendre cette lettre et la classer dans vos archives avec un sourire moqueur. Encore une erreur de l'administration. Sauf que, s'agissant de l'évangile, il ne s'agit pas d'une erreur. Et c'est bien là le sens du message de Jésus envers les autorités religieuses. Au verset 23, il dit, Jésus, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Parce qu'elles refusent de passer par la case repentance, ces autorités, ces personnes, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, qui est de sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et c'est par la repentance qu'il les y conduit. » Dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre dit expressément ceci. « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Même les pharisiens, même les sadducéens, même moi, même vous tous ici rassemblés. Jean pratiquait le baptême de repentance, cette phase de retour sur soi, de reconnaissance de notre péché, et c'est en cela qu'il prépare la venue du Christ, qui, lui, apporte le salut à ceux qui se reconnaissent pécheurs et saisissent la grâce qui leur est offerte. Et comme le baptême de Jean a précédé le baptême chrétien, auquel nous avons assisté tout à l'heure avec Nina, la repentance est l'étape nécessaire à l'appropriation de la grâce que Dieu nous a faite en la personne de son Fils Jésus. C'est une étape difficile. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une étape difficile qui nous place face à nos responsabilités et qui produit en nous une immense tristesse. Et j'en veux pour preuve ce que Paul dit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, pour ceux qui veulent le prendre au chapitre 7, versets 8 à 11. Voilà ce qu'il leur dit. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois bien que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? En mélangeant d'une manière assez subtile la repentance et la repentance de la repentance, parce que Paul évoque ici combien il lui en a coûté d'adresser ses reproches aux Corinthiens dans la première lettre qu'il leur a adressée, et il s'est peut-être même demandé s'il ne devait pas se repentir d'avoir été si dur avec eux. Mais il constate tout aussi bien qu'ils ont tiré de ceci une repentance qui les a conduits au salut. Et on ne peut tout de même pas se repentir d'avoir conduit quelqu'un au salut. Mais il souligne aussi le côté momentané. La repentance est une étape nécessaire, mais transitoire. Le ministère de Jean était un ministère important, mais transitoire, de préparation des cœurs, jusqu'à ce que le Christ vienne, guérisse des malades, ressuscite les morts, ouvre les yeux des aveugles, fasse marcher les boiteux, annonce la bonne nouvelle de son royaume, et sommet de tout cela, endosse sur lui le poids de nos péchés et les porte à notre place sur la croix. La repentance ne sert à rien si nous restons accablés sous le poids de nos péchés. La repentance est stérile si nous n'avons pas de solution pour la décharger, pour nous décharger de ce poids. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert, leur dit Jésus. Vous êtes allé voir celui qui vous a conduit jusqu'à moi. C'est cela qu'il est en train de leur expliquer. Vous êtes allé voir celui qui a préparé vos cœurs à me rencontrer. Qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? Qu'êtes-vous venu voir ici ce matin ? Il me plaît de croire qu'aucun de nous n'est venu voir Nina prendre un bain. Mais quoi alors ? Un acte qui marquerait un changement de religion ? Ce n'est pas ce que j'ai entendu dans le témoignage de Nina. Ou bien Nina a-t-elle voulu affirmer une décision responsable en tant qu'adulte vis-à-vis d'un baptême qu'elle n'avait pas pleinement assumé lorsqu'elle était enfant ? Certes, il y a sans doute un peu de cela. Mais j'ai entendu dans sa bouche quelque chose de bien plus important. Je suis morte et ressuscitée avec le Christ, nous a-t-elle dit. Ce que j'étais, ce que j'ai fait, mes valeurs, mes cheminements de pensée, tout ce que j'ai pu vivre auparavant sans le Christ a été cloué avec lui sur la croix. Ma vie d'avant sans lui sur la croix, mes doutes sur lui, mes espoirs en d'autres que lui sur la croix. Sur la croix, mes attentes en d'autres choses que son royaume, mes péchés, mon égoïsme, mes mauvaises pensées sur la croix. Aussi importante que plusieurs de ces choses aient pu être pour moi avant de le connaître, elle ne représente plus rien aujourd'hui. Comme mon corps a disparu sous l'eau il y a quelques instants, je suis morte à ces choses avec le Christ. Et comme je suis ressortie de l'eau quelques instants plus tard, je suis ressuscitée avec lui pour une vie nouvelle dont je désire qu'elle lui rende gloire. C'est ça qu'elle nous a dit. Mais revenons à la fin de notre texte. Versets 31 et 32, à quoi comparerais-je donc les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Il leur dit « Vous avez assisté en spectateur et en prenant bien garde, surtout, de ne pas vous laisser toucher parce que vous avez vu et entendu. Des fois, que vous réaliseriez à cette occasion que vous êtes condamné, que vous pouvez être gracié et que cela ne bouleverse votre vie. » C'est ni plus ni moins ce que dit Jésus. Je me souviens d'une amie qui nous avait accompagnés au culte lors d'un week-end qu'elle avait passé dans notre famille. Et elle avait écouté très attentivement le message qui était donné ce jour-là. Et elle a relevé en sortant que c'était un message très structuré, nous a-t-elle dit. Sans hostilité aucune, mais sans se laisser toucher en rien non plus, elle est repartie comme elle était venue, avec son message structuré sous le bras. Versets 33 et 34. Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de vin, ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. À la fin de ce passage, Jésus renvoie dos à dos les arguments de ceux qui n'ont vu en Jean qu'un ascète et en lui qu'un jouisseur de la vie. Il met en évidence que si le cœur ne se laisse pas toucher parce qu'il voit et parce qu'il entend des hommes et même du Fils de l'homme, hein, ça veut dire du Fils de Dieu, dans cette expression-là signifie le Fils de Dieu, si le cœur ne se laisse pas toucher, alors il saura se trouver de très nombreuses raisons très logiques, à défaut d'être honnête, de ne pas croire en lui. Qu'êtes-vous venu voir ce matin? Y a-t-il dans les paroles qui ont été prononcées, dans les lectures qui ont été faites, dans les lignes que nous venons de lire, dans les chants qui ont été chantés, peut-être dans ceux qui vont encore être chantés, une petite chose, une toute petite chose qui vous interpelle et vous met mal à l'aise en même temps? Un mélange d'attirance et de crainte? L'impression d'une porte entrebâillée que vous pouvez pousser ou au contraire à laquelle vous pouvez tourner le dos? Pas de doute, le Christ est en train de vous parler. Chantons ce chant très beau qui nous dit « Oh, viens devant le Saint-Trône ».